D'autres missions attendaient Fontaine dans le Nord Seychelles entre les années 1952 et 2036, date probable de son retour sur son îlot intemporel. En attendant, notre homme devait poursuivre sa route vers l'Angleterre où l'attendait sa prochaine aventure. Il est probable qu'il préférait vivre à cette époque, contrairement à son pauvre jumeau qui allait en voir de toutes les couleurs dans le monde des dinosaures. C'est donc par lui qu'il faut poursuivre la lecture de ce récit, puisqu'il explique davantage l'origine des étranges primates australiens que nous avons rencontrés à l'époque de l'Atlantide. Voici donc un monde vraiment étrange. Qui pourrait croire que des humains vivaient à l'époque des dinosaures, et surtout qu'ils parlaient entre eux la langue de Molière? Pourtant, rien n'est impossible en ce monde, surtout lorsqu'il existe des êtres qui peuvent voyager dans le temps. C'est ainsi qu'un farfelu personnage ayant pour nom Mélius Denlor Peychel parcourait différentes époques pour accomplir des missions. Mais entre nous, jamais il n'aurait accepté de se faire envoyer à l'époque des monstres préhistoriques, à moins que cela se fasse d'une manière accidentelle. Ces maîtres de l'invisible savaient si bien qu'ils le firent d'abord apparaître au milieu du 20e siècle pour qu'il y soit follement amoureux d'une charmante femme appelée Dame Aurore de Vicoc. Mais celle-ci ne l'aimait pas et se servit de lui pour qu'il l'aide à retrouver son ancien mari qu'elle croyait quelque part dans le temps, après avoir emprunté un étrange couloir lumineux. Non, se servait Peychel pour se rendre un peu partout dans l'histoire du monde. Malheureusement, notre homme comprit trop tard les intentions de Dame de Vicoc. Lorsqu'il vit celle-ci se laisser simplement attirer par le couloir intemporel, dans le but d'aller retrouver son époux. Comme le chien de Peychel cherchait à l'empêcher de s'approcher du couloir en question, Aurore se mit à crier en réalisant que la bête venait de se faire envoyer à l'époque des dinosaures. La pauvre femme voulut reculer. Mais elle fut attirée à son tour par le puissant aimant lumineux et se retrouva également au même endroit. Peychel ne pouvait l'abandonner et se jeta tête première dans une autre aventure malgré lui. On pourrait dire que ses maîtres de l'invisible utilisèrent Dame de Vicoc pour inciter notre homme à se lancer lui-même dans ce couloir afin de vivre à l'époque où les animaux et insectes étaient rois et maîtres sur Terre. L'homme, s'il y avait sa place, c'était à titre de petite pudaise. Un chien loup se retrouva au sommet d'un arbre, tandis qu'une femme chuta tête première dans un îlot de fougères géantes. Pendant qu'un homme apparut sur une sorte de colline, qui était en réalité la carcasse d'un brontosaure. Il perdit pied pour alors passer à travers le dos de l'animal. Sa chute se termina dans le nid d'un griffon. C'était du moins à quoi ressemblait l'étrange oisillon qu'il faillit écraser en tombant. Pourtant, loin d'en être apeuré, l'oiseau de malheur se mit à lui griffer amicalement les bras comme s'il venait de retrouver sa mère. Encore aveugle, le volatile au plumage noir et humide venait à peine de sortir de son œuf. Sacré nom d'un chien, s'écria l'homme en cherchant un moyen de sortir de là au plus vite. Il va me tatouer de partout si je le laisse faire. Ouf! À l'aide, jappa le pauvre chien encore juché au sommet d'un arbre. Oh, Sébacus, j'arrive, mon pauvre ami. Il sortit rapidement du gros ventre squelettique en passant simplement entre deux énormes côtes, pour ensuite diriger son regard vers un arbre dont la cime semblait frissonner. C'est que le chien cherchait à descendre sans pouvoir se décider de quel côté il devait sauter. En somme, il avait peur de se briser les pattes sur un rocher qui faisait le tour de cet arbre sans se presser. Le pauvre chien venait de découvrir un spécimen très rare de tortue néo-jurassique, puisque les dinosaures étaient déjà, à cette époque, sur le point de céder leur place à des mammifères proches de ceux que connurent les premiers hommes des cavernes. Ainsi, à part sa taille vraiment énorme, cette tortue ne présentait aucun danger pour Peychel. Il s'amusa même à monter sur sa carapace légèrement ondulée comme des vagues. Il vit alors une grosse tête décharnée à travers les arbres. C'était à vrai dire la tête du brontosaure qui se terminait par un long cou squelettique. Des arbres avaient poussé à travers son crâne. « Aide-moi à redescendre, jappa le chien apeuré. Je veux bien t'aider, mais j'ignore comment je vais pouvoir m'y prendre. D'ici quelques années, Il va peut-être te pousser des ailes et tu pourras alors voler, mon bon Bacchus. Ce n'est pas drôle du tout, mon maître. Au secours, j'ai mis une autre voix lointaine. Aurore, c'est Dame de Licor que j'ai mis le pauvre homme en courant vers un îlot de fougères. Je suis prise entre ces sales feuilles géantes, lui cria la femme, vraiment en mauvaise posture, puisqu'elle avait la tête en bas et les jambes dans les airs. Ouais, vous faites du yoga, ma parole. Je vous en prie, aidez-moi à me dégager, si cela n'est pas trop exigé de vous. Mais j'étais sur le point de vous demander comment vous avez aimé votre voyage dans l'intemporel. Mais mieux vaut ne pas insister, lui dit l'homme, en la sortant de sa prison. Vous parlez d'une maudite façon d'arriver à destination, s'empressa de lui répondre sa compagne indignée. Pardonnez-moi ma colère, puisque j'ai la quoi justifier dans les circonstances. Je vous en prie, madame, je n'ai pas le temps d'écouter vos complaintes, car je dois aider Bacchus à descendre de son arbre. Il est donc plus important que moi. Dans les circonstances, je dirais que ce chien peut nous aider à survivre. Échelle se fit saisir le bras par la femme apeurée. Dites-moi que je rêve, Mélius. Nous ne sommes pas à l'époque des dinosaures, n'est-ce pas? J'en ai bien l'impression. Je viens de voir un brontosaure dont il ne reste que la carcasse. J'ignore comment il est mort, mais il va falloir demeurer sur nos gardes dans ce monde vraiment étrange. Lorsque le couple arriva devant l'arbre en question, Bacchus en était déjà descendu. Il boitait légèrement, mais sa blessure ne présentait aucune gravité. « Comment te sens-tu, mon brave Bacchus? »« Assez bien, mon maître, lui répondit la bête, en fixant d'un air ébloui les gros os du brontosaure. « Je pense que je vais me plaire ici. Jamais je n'ai vu autant de nourriture pour chien. » Pour toi, et non pour nous, les humains s'empressa de lui faire remarquer Péchel en soupirant. Il faut dire que Péchel possédait ce don particulier de pouvoir communiquer non seulement avec des animaux et insectes, mais encore avec des minéraux et des végétaux. Cela l'aiderait grandement dans sa mission, puisqu'il n'était pas arrivé à cette époque pour y passer des vacances. Il fallut un certain temps à nos Robinsons du futur pour s'organiser sur cette île située sur des côtes de ce qui sera un jour désigné par l'Ouest américain. Péchel réalisa que c'était vraiment une chance de se trouver sur une bande de terre entourée d'eau et de récifs. Les dinosaures semblaient bouder ce coin vraiment merveilleux, même s'il était chaud, humide, infesté de marécages et de fougères géantes aux odeurs nauséabondes. Que voulez-vous, il fallait bien que nos naufragés de l'intemporel trouvent un côté positif à une île épargnée par les grosses pattes des monstres préhistoriques. Il y avait évidemment ce squelette de l'Apatosaurus, communément appelé Brontosaurus ou Brontosaure. Toutefois, il s'agissait d'une bête blessée ou malade qui était venue mourir à cet endroit sans avoir eu l'occasion d'explorer le nouveau paradis de nos amis. Notre homme aurait vu plusieurs traces géantes dans cette glaise durcie s'il y avait eu d'autres monstres que ce gros herbivore des marais. D'ailleurs, il était mort depuis des centaines d'années sans que ses congénères ne viennent habiter l'île de Méléos. C'est ainsi que Péchel la nomma après l'avoir explorée de long et en large. Méléus et Aurore se firent une coquette maison dans le ventre du brontosaure, et qu'ils recouvrirent d'algues géantes et non de fougères à cause de leur odeur infecte. Il fallait également nourrir l'étrange oiseau qui suivait notre homme partout comme un caneton derrière sa maman. Tant qu'aux autres membres de cette nouvelle famille, ils trouvèrent en grande quantité des poissons ressemblant à des harengs et d'autres à des anguilles. Péchel ne savait trop comment les identifier scientifiquement, sauf que ceux-ci étaient nombreux à se laisser prendre dans son filet improvisé. En effet, notre pêcheur se servait de sa culotte pour les attraper sur le bord des récifs. Lorsqu'un gros poisson venait s'introduire dans son vêtement, il finissait par se faire serrer dans l'une des jambes du pantalon. Le premier soir, croyez-le ou non, Péchel fit un feu sur la grève. Pouvons-nous imaginer ce que cela pouvait signifier de pouvoir frotter une allumette achetée au milieu du 20e siècle pour faire cuire du poisson il y a 200 millions d'années environ? À quoi donc pouvaient songer Aurore et Péchel, qui se savaient parfaitement les seuls de leur espèce, puisque l'homme apparu sur Terre il y a peut-être 65 millions d'années et encore, vraiment aussi intelligent que le singe, sans plus. « À quoi songes-tu, Méléus, en fixant cette flamme comme un homme tourmenté ?» lui demanda Aurore, devenue très douce envers lui, et qui jugeait inutile de le vouvoyer. « Je réalise que c'était ma dernière allumette, » lui répondit l'homme en soupirant. « Il va falloir y apprendre à faire du feu comme les primitifs. »« Tu sais comment t'y prendre ?»« Bien entendu. » J'ai vécu plusieurs années dans une tribu néandertalienne au cours de l'une de mes aventures dans le temps. Mais vois-tu, nous étions alors plusieurs à pourvoir aux besoins de la tribu. Et si l'un de nous meurt ou tombe gravement malade, l'autre sera vraiment seul. Cela t'inquiète de savoir que l'on soit les seuls humains sur Terre, n'est-ce pas? Je dirais que j'éprouve un bien étrange sentiment en ce moment, lui répondit Pechel en esquivant un sourire. Nous vivions dans un monde où des millions d'hommes s'entretuaient pour des questions d'argent et de pouvoir, tandis que je m'inquiète pour notre survie. Sais-tu que tu représentes à toi seul la moitié de l'humanité et moi de même? Ensemble, nous constituons toute l'histoire de la race humaine, vraiment fragile dans ce monde peuplé de dinosaures. J'en éprouve beaucoup de crainte et d'incertitude face à notre avenir, lui répondit la femme. Pechel opina de la tête avant de répondre. Nous sommes exactement comme des puces tombées dans le pelage d'un chien. Il lui suffirait de se gratter légèrement pour nous expulser de son domaine. Moi, les puces ne me dérangent pas, lui dit Bacchus, alors assis près de lui. Brave chien, ta présence me réconforte grandement. « Nous sommes si peu nombreux sur cette île que chacun de nous est devenu indispensable aux autres. »« Dois-je en conclure que j'aurai le droit de dormir dans votre maison ?» lui demanda innocemment la bête. « Par prudence, nous devrons tous dormir dans la maison, » lui répondit son maître en lui caressant les oreilles. « Nous n'avons pas vu d'animaux féroces, mais mieux vaut ne prendre aucun risque. » « Il va également dormir dans la maison ?» demanda le chien, en pointant son museau vers l'oiseau endormi près d'Aurore. « Oui, il fait partie de la famille à présent, » lui dit Pechel en riant. « Il faudrait lui donner un nom ?» demanda la femme en souriant. « À voir les marques de griffes qu'il m'a laissées sur les bras, j'ai bien envie de l'appeler Griffin. »« Griffin ? C'est un joli nom, mais pas aussi beau que celui de Méléus, mais presque. » j'accepte volontiers ce compliment. Allons-y pour Méléus, roi et maître de l'île de Méléos. Et toi, tu es Aurore, reine de mon cœur. Tu sais, je t'aime. Tu m'aimes encore malgré que je t'ai trompé par de faux sentiments? Que veux-tu, l'amour est m'aveugle, et donc je ne peux voir cette trahison. Si l'amour t'a aveuglé, il m'a ouvert les yeux sur un homme vraiment bon, généreux et aimable. Il faut me laisser le temps de te connaître davantage pour savoir si cette amabilité va réanimer en moi le même sentiment que j'éprouvais jadis envers mon époux. Tu l'aimais passionnément, n'est-ce pas? Tu sais très bien que je me suis jeté dans ce couloir de l'intemporel dans le but d'aller le rejoindre. Je ne veux pas projeter sur toi cette folle passion que j'éprouvais envers lui. Cela serait encore une fois une trahison. Je ne veux pas te subtiliser à lui, mais apprendre à t'aimer pour toi. Je comprends ton sentiment et je te remercie de ta franchise, Aurore. Je vais attendre que ton cœur se libère. La première nuit, personne ne dormit. Le moindre froissement de feuilles ou de bruit bizarre suffisait à créer de l'angoisse, inutile sans doute, mais que nos amis ne pouvaient contrôler. Dame de Vicoque finit par se blottir dans les bras du seul homme de la planète qui pouvait la protéger contre ses peurs. Elle était persuadée que Pechel souhaitait vivement ne jamais devoir se trouver devant un dinosaure. Il est vrai que cela pouvait leur être fatal, mais cette dame ne connaissait pas encore son homme, qui avait déjà planifié se rendre un jour sur le continent. Il voulait explorer de plus près ce royaume des dinosaures, puisqu'il se disait que c'était une occasion exceptionnelle de pouvoir regarder ces monstres de près et en chair et en os. Il avait peur en réalisant ce qui pouvait lui en coûter les pieds des animaux préhistoriques, mais sa curiosité était encore plus forte. Puis entre nous, Péchel n'était pas ce genre d'individu qu'on pouvait soumettre par la peur. Il avait vécu trop d'expériences périlleuses dans le temps pour ne pas vouloir se risquer un jour ou l'autre sur le territoire des géants. Même si le temps s'écoulait lentement, le petit griffin grossissait vraiment vite. Au bout de quelques mois, il était deux fois de la taille d'un homme et ses ailes déployées s'étendaient à plus de 3 mètres de largeur. Puis que dire de ses pattes aux serres redoutables, sinon qu'il pouvait se saisir de Bacchus sans le blesser, afin de le conduire au-dessus de l'île pour jouer au Super Dog. Il faut dire que l'oiseau de proie et le chien étaient devenus des amis inséparables. Ils chassaient des petits rongeurs, ce qui variait le menu de leur maître. Péchel se demanda longtemps pourquoi la mère de Griffin ne recherchait pas son petit. La seule réponse qui lui vint à l'esprit fut que celle-ci le croyait mort. Puisque l'œuf se trouvait dans le ventre du brontosaure, notre homme en déduisit qu'il fut simplement avalé par la grosse bête. Aurore lui demanda tout de même d'une voix inquiète. Sa mère l'a peut-être simplement déposé dans le ventre de l'animal, dans le but de venir le chercher plus tard. Rassure-toi, voyons, elle ne pouvait introduire un œuf aussi gros entre les côtes du monstre. Si tu dis vrai, tu oublies le nid. Qui l'aurait fabriqué alors? C'était un nid d'algues, ma douce Aurore. Je pense que c'était suffisant pour que le brontosaure avale l'œuf en même temps que le nid. Tout de même, si tu as raison, insista la femme en souriant, il faudrait admettre que cet œuf est demeuré des centaines d'années dans le ventre du gros herbivore avant d'être là. C'est probablement le cas. Puis si le brontosaure n'a pas eu le temps de le digérer, c'est qu'il est mort peu de temps après l'avoir gobé. L'œuf l'aurait empoisonné? L'œuf ou bien le nid, je ne sais pas. Toutefois, l'animal était peut-être déjà malade ou simplement trop âgé pour le digérer. Cet œuf fut réchauffé pendant plusieurs années par l'animal en décomposition. Oui, et la mort du dinosaure fut bénéfique pour Griffin. Tu crois qu'il retournera un jour auprès des siens? C'est possible que son instinct sauvage le pousse à retourner sur le continent, mais j'ignore s'il est conscient qu'il existe d'autres oiseaux de son espèce en dehors de l'île. Une chose est toutefois certaine, c'est que cet oiseau n'est pas originaire de l'île, tout comme le brontosaure. Ce que Péchel évitait de dire à sa compagne, c'est qu'il comptait sur Griffin pour le transporter un jour sur le continent. Mais ce plan de voyage ne pouvait fonctionner, puisque notre homme ignorait qu'un tel oiseau ne pouvait voler longtemps. Si le contraire avait été vrai, d'autres volatiles de cette espèce se seraient déjà aventurés sur cette île en traversant ces 50 kilomètres qui la divisaient du continent. Dame Aurore de Lycoque s'était déjà habituée à cette vie de Robinson, mais son compagnon lui dit un matin en l'aidant à tisser des genres de jaquettes avec des algues séchées. « Tu sais, Aurore, quelque chose me dit que je devrais bientôt accomplir ma mission. »« De quelle mission parles-tu, voyons? » J'ignore encore laquelle, sauf que mes maîtres de l'invisible ne m'ont sûrement pas envoyé ici sans raison. Écoute, si tu es ici, c'est que tu es venu à mon secours. Je trouve ce geste très noble de ta part. Tu ne connais pas encore ces maîtres, ma pauvre Aurore. Peu importe où je me trouve, ils finissent toujours par me trouver du boulot à accomplir. Mais que veux-tu qu'ils te donnent comme mission sur notre petite île? Justement, cette île est notre protection contre les dinosaures, mais en ce qui me concerne, je sais que ma mission devra se faire ailleurs. Pas sur le continent. Si, c'est là que mon cœur m'indique d'aller. Ta mission, tu n'as que ce mot en tête, lui répondit la femme, qui n'était vraiment pas disposée à lui laisser quitter l'île. Aurore, tu ne devrais pas t'en prendre à ma vocation de missionnaire. Je comprends tes craintes à me voir partir un certain temps. Mais je ne peux changer ma nature. Comme je voyage partout dans le temps, il faudra bien que tu acceptes le fait que je ne serai jamais ce genre d'homme qu'une femme doit s'attendre à conserver près d'elle bien longtemps. Bien avant de te connaître, j'ai vécu des milliers d'années et accompli plusieurs missions, alors que tu n'étais même pas encore né. Tu voudrais sans doute que je te prouve mon amour en refusant de suivre ma vocation? Mais quel genre d'homme es-tu donc pour accepter d'abandonner une femme sous prétexte d'aller accomplir une mission? Il faudrait peut-être que tu sois honnête envers toi-même. Selon toi, combien d'hommes doivent quitter leurs femmes et leurs enfants pour obéir à leurs supérieurs lorsqu'ils doivent faire la guerre? C'est évident que je ne me bats pas avec un fusil, mais j'obéis tout de même à des supérieurs qui m'accordent aucune valeur aux vanités et gloires de ce monde. Ils s'attaquent uniquement au cœur humain pour tenter de le pacifier. Crois-tu au moins que je puisse être un soldat de la paix? J'ignore si tu es un soldat de la paix ou si tu cherches uniquement à m'émouvoir. Je me demande ce que tu gagnes à faire le clown pour des causes insensées. Voyons, crois-tu que je suis un missionnaire des causes insensées par manque de maturité? On peut évidemment m'accuser d'avoir l'air ridicule et surtout d'accepter de vivre comme un clochard. On oublie cependant que c'est moi qui ai choisi ma condition et non la fatalité. Tu sais, mes nombreux voyages dans le temps m'ont indiqué tous les endroits où s'y trouvent des mines d'or, des gisements de pétrole et même des trésors qui ne sont pas encore découverts. Si je le voulais, je pourrais m'approprier la paternité de toutes les inventions importantes, puisqu'il me suffirait pour cela de réinventer à une époque antérieure ce qui existait dans celle du futur. Crois-moi, je connais par cœur des formules mathématiques qui auraient fait fureur au temps des Égyptiens et dans d'autres époques futuristes. Qui pourrait d'ailleurs m'accuser de dérober des secrets technologiques pour les adapter dans un temps où personne n'aurait eu l'idée de les inventer? Qu'est-ce qui m'empêcherait d'acheter des terrains qui vaudront des fortunes lorsqu'on voudra construire des villes et des routes? Tu ne penses pas que je serais le mieux placé pour savoir spéculer dans ce domaine, puisque je connais toutes les époques et les endroits où les terres seront les plus profitables dans 10 ou 20 ans, ou 100 ans, ou 1000 ans. Je ferais même fortune en prédisant l'avenir sans la moindre erreur. Dis-moi à présent ce qu'un homme sensé aurait fait à ma place. La femme baissa les yeux en rougissant de honte. Son amoureux ajouta sans aucune mesquinerie dans sa voix. « Je vais te faire une autre révélation, Aurore. Dans plusieurs de mes aventures, il m'arrive de posséder beaucoup d'or. J'en dépense énormément et j'en cache une partie dans un endroit où je pourrais le récupérer dans une future mission. Ainsi, en arrivant dans une autre époque, j'ai toujours un peu d'or pour m'aider à me loger et nourrir en attendant de me débrouiller autrement. » Des mauvaises langues pourraient colporter que j'aime l'or, mais s'ils devaient voyager comme moi, non pas d'un pays à l'autre, mais bien d'une époque à l'autre, je me demande ce qu'ils feraient avec un billet américain à l'époque des Grecs, par exemple. C'est pour cela que j'utilise l'or, puisqu'il a toujours sa valeur monnayable, peu importe où je voyage dans le temps. D'accord, si j'admets que tu es un missionnaire, je refuse tout de même de vivre seul sur cette île. Je préfère t'accompagner sur le continent. Voyons, Griffin ne pourrait nous transporter tous les deux sur le continent. Et tu crois que je vais accepter de vivre ici en ayant comme toute protection que celle de Bacchus? Tu veux me faire mourir d'angoisse, ma parole? Tant pis, j'irai sur ce continent en radeau, ou s'il le faut, je le ferai à la nage. Mais vas-y au plus vite, entêté. Décidément, Dame de Bicoque avait du caractère. Elle se leva pour ensuite lui jeter son tissu à la tête avant d'aller s'enfermer dans la maison. Notre homme se releva à son tour et secoua de la tête d'un air attristé, puisqu'il n'était pas dans son intention de faire de la peine à celle qu'il aimait profondément. Il préféra aller flâner sur la grève afin de réfléchir à la situation. Alors une étrange voix lui dit joyeusement, « Allons, mon héros, ne me dis pas que tu songes à te rendre sur le continent à la nage. »« Qui êtes-vous ? » demanda notre homme en regardant inutilement autour de lui. « Je suis l'auteur. »« Mais l'auteur de quoi ? » ?»« Celui de tes aventures, mon héros. Écoute-moi bien. J'en suis encore au premier chapitre. J'attends de deviner comment je t'enverrai sur le continent. Je réalise que tu ne pourras jamais quitter ton île à moins de pouvoir te construire un radeau. » Il n'est pas question que je te laisse traverser à la nage, puisque j'ai envie de défier toutes les lois du bon sens, en t'offrant l'occasion de t'y rendre à pied. En marchant, je commence à comprendre pourquoi je passe pour un insensé dans mes aventures. Vous ne pourriez pas simplement me fournir des outils pour me construire un radeau? C'est ça. Veux-tu une scie électrique et une perceuse tant qu'à y être? Voyons, il faut tout de même respecter une certaine logique, mon héros. Ce n'est pas nécessaire de me fournir des outils électriques si je n'ai pas de prises pour les brancher. Des prises? Tu en fais tous les jours à la pêche, lui répondit l'auteur, pour taquiner son poisson. Si tu pêches un poisson électrique, peut-être as-tu une chance de le mettre au courant de l'affaire qui retarde ton départ. Mais s'il s'en fiche, c'est peine perdue, et aussi bien oublier cette solution détruite. Bon, il s'est perdu dans les jeux de mots, ce sacré auteur, Jimmy Pêchel. D'accord, je vous trouve quelque peu insensé de me faire marcher sur les eaux, alors qu'il me faudrait quelques outils pour fabriquer un radeau. Bon, tu as du bois? Non, cette île est remplie de fougères géantes qui ne pourraient constituer une solide embarcation. Puis, qui t'a parlé de marcher sur les eaux? Je t'ai dit que tu pourras traverser en marchant, n'est-ce pas? Regarde là-bas, il y a quatre grosses tortues que tu pourrais apprivoiser pour qu'elle accepte ensuite de te servir de plancher. Tout de même, il m'en faudrait 20 000 de plus pour faire un pont entre mon île et le continent. Non, lui dit l'auteur, pas si tu sais leur enseigner la manière de se suivre de très près et en ligne droite. À la queue leu-leu, quoi? Sûrement pas en queue de poisson, si tu tiens à terminer ton voyage. Il te suffira simplement de monter sur une première tortue, pour ensuite faire quelques pas, et si tout est parfaitement synchronisé, la suivante immergera devant elle pour que tu puisses marcher sur son dos. J'ai songé à te faire traverser assis sur une tortue herculéenne, mais ce mammifère n'est pas un bateau pour supporter un poids au-delà d'un certain temps. Elle va s'épuiser rapidement et te conduire fatalement au fond de l'eau. « Si je comprends bien, lui dit Pêchel, vous ne voulez vraiment pas me rendre la vie facile, si justement la deuxième tortue refuse de passer sous sa congénère afin d'émerger devant moi, je vais donc devoir m'attendre à couler. »« Définitivement. Au moins j'admire votre franchise, mais puis-je savoir ce qui m'attend sur ce continent si j'y parviens sans me noyer auparavant? » L'auteur lui répondit, « Je l'ignore, mon héros. Je suis l'auteur de tes aventures et non la muse qui m'inspire alors que je transpire en écrivant sur mon ordinateur. C'est elle la véritable patronne, pas moi. » Pêchel insista tout de même, mais la voix se fit silencieuse. « D'accord, je n'insiste plus. Qu'avez-vous l'intention de faire à présent? » « Mais retournez dans mon bureau pour écrire la suite de tes aventures en sirotant une bonne tasse de thé. »« Chanceux! » Notre homme reçut alors une boîte de thé sur la tête et vit une théière en fer blanc tomber à ses pieds. Toute la journée, Pêchel tenta d'apprivoiser les tortues, mais celles-ci refusaient de sortir la tête de leur carapace. Il retourna donc à la maison pour montrer ses trouvailles à Aurore. Elle lui dit d'une voix sèche, « Cela ne m'intéresse pas de savoir que tu as parlé avec l'auteur de tes aventures et même de prendre le thé en ta compagnie. » « Sacré nom d'un chien, je commence à te trouver pas mal sous poulet, lui répondit son compagnon en astiquant la théière de sa main. « C'est ainsi et probablement pour vitam aeternam. »« Amen, lui répondit Pêchel, en l'examinant marcher d'un pas décidé jusqu'à l'intérieur du brontosaur. » La guerre froide venait de débuter, mais dura à peine quelques secondes, car la pauvre femme se mit à crier d'effroi et sans préciser davantage ce qui la terrorisait. Son compagnon entra en trombe dans la maison pour voir Aurore se débattre avec fureur contre une tige géante qui s'était introduite dans la pièce en passant simplement entre les côtes de l'animal. Pêchel comprit qu'il fallait à tout prix arracher cette étrange plante, plutôt que de tenter de la dérouler autour de la taille de sa compagne. Il sortit rapidement à l'extérieur pour crier à Griffin de venir le retrouver derrière la maison. L'oiseau introduisit ses énormes serres dans le sol et déracina la tige d'un coup sec. Alors, elle se mit à crier faiblement et du sang sortit de ses racines. Notre homme gémit aussitôt en examinant le cadavre végétal. « Mais qu'est-ce que c'est? » Dans ce monde où le sol était d'une rare fertilité, Il était possible de voir des fleurs croître rapidement, mais pas aussi vite que cette plante qui venait de s'introduire dans la maison. Mélius songeait sérieusement à la possibilité d'avoir devant lui une plante humanoïde, ou du moins animale en apparence, à cause de son aspect végétal. Cette longue tige était recouverte d'une poudre blanche dont l'odeur rappelait celle de l'éther. Péchel retourna dans la maison pour examiner Aurore encore étendue sur le sol et tremblant de tous ses membres. Il s'empressa de la saisir dans ses bras pour la réconforter. « Comment te sens-tu, Aurore? Je ne peux m'empêcher de trembler. C'était quoi cette plante? » « Je l'ignore. Tu sais, nous vivons à une époque où la planète est un véritable laboratoire naturel. La vie prend toutes sortes de formes pour préparer celle que l'homme aura dans des millions d'années. » Nous sommes, toi et moi, le résultat de cette métamorphose. Il n'en fut pas toujours ainsi. L'homme vient du singe, n'est-ce pas? Probablement du singe, mais lui, à quoi ressemblait-il avant de descendre des arbres et manger des bananes? On oublie souvent que l'évolution est perpétuelle et que même les hommes muteront en autre chose s'ils parviennent à survivre 300 ou 400 millions d'années. Ils risquent de s'autodétruire avant, mais s'ils dépassent ce stade des confrontations, ils vont progressivement adapter une autre sorte de corps. Ils n'auront plus de mains et pas même de pieds. Eh bien, tu n'as qu'à comparer l'homme des cavernes à celui des temps modernes pour voir déjà ses traits se raffiner. Un jour, il sera impossible de distinguer un homme d'une femme, sinon par leurs organes mâles et femelles. Leurs doigts vont s'allonger ainsi que leur crâne. Puis leurs orteils seront à peine plus longs que ceux d'un jeune enfant. Ils marcheront comme ces petites chinoises aux pieds déformés. On dirait que tu cherches à me dire que cette plante était une sorte d'humanoïde. Je pense que c'est le cas. Pourquoi m'a-t-elle saisi dans le but de m'étouffer? J'ai même perdu connaissance lorsque tu cherchais à l'arracher du sol. Je pense, Aurore, que c'est ton odeur qui l'a attiré, ou simplement un instinct de survie. Un instinct de survie? Que refuses-tu de me dire? Je dois savoir, j'ai peur. Eh bien, il se peut que je me trompe, mais cette plante voulait te féconder. C'est ridicule, elle m'a entouré la taille et le cou. Suis-je assez clair? Aurore, son odeur t'a pénétré la peau avec ses milliers de petites épines recouvertes de poudre blanche. J'espère me tromper, mais j'ai vécu trop d'aventures dans ma vie pour savoir qu'une espèce en voie d'extinction fera tout pour se muter en autre chose. Mais c'est de la pure fiction, ça. Non, c'est la vie d'une espèce qui cherche à survivre lorsqu'elle se sent en dehors de l'évolution. Cette plante a peut-être eu son temps ou sa place sur notre planète, mais l'évolution l'oblige à se muter ou à simplement disparaître. Cette poudre blanche était la semence de ce monstre végétal. Je vais donc avoir un bébé plante? Pas une plante, puisque tes gènes sont le fruit de millions d'années d'évolution humanoïde. Si tu as un enfant, il ressemblera à un humain. Péchel était vraiment inquiet au sujet de sa compagne, qu'il ne pouvait laisser seule sur l'île, puisque quelque chose lui disait qu'elle mettrait bientôt au monde un enfant qui n'était pas de lui. Comment allait-elle réagir en voyant à quoi ressemble celui-ci? Vraiment, Aurore ne tenait pas du tout à en discuter pour le moment. Elle lui demanda de lui faire un bol de thé, en espérant faire cesser ses tremblements. Mélius la sortit de la maison en la gardant dans ses bras. Il l'installa près du feu qu'il gardait allumé en permanence, devant la demeure afin d'éloigner les animaux. Mais avant de sortir du ventre du brontosaure, il jeta un rapide coup d'œil sur la tige inanimée qui ressemblait à présent à une queue de singe. Pendant plusieurs semaines, Aurore se comporta normalement et son compagnon faisait semblant d'avoir oublié cette histoire de tige. Un matin, prise d'un nausée, la pauvre femme se mit à pleurer en cherchant les bras de son compagnon. « Non, je ne veux pas un enfant de cette sale monstruosité. Aide-moi à m'en débarrasser. »« T'avorter? Non, jamais. Je n'accepterai une telle solution. » »« Les hommes sont tous les mêmes, lui cria-t-elle d'une voix désespérée. « Vous avez des principes, mais c'est tout de même nous, les femmes, qui devons en supporter les conséquences. Pourquoi devrais-je accepter de mettre au monde un être indésirable? » Je sais ce que tu ressens, Aurore, et je ne mâcherai pas mes mots pour dire que ce monstre t'a violée. J'en pleure amèrement depuis des semaines, mais jamais je ne pourrai accepter de te débarrasser de cet enfant. Ce n'est pas un enfant, mais c'est cette chose qui appartient à cette plante humanoïde. Je le sais, pourtant, si on la tue, nous serons les premiers meurtriers d'humanité. Péché tenta de lui faire comprendre qu'étant dans une époque où l'homme n'existait pas encore, il n'avait pas le droit d'empêcher la première forme humaine d'apparaître sur Terre. Qu'elle l'accepte ou non, Aurore allait devoir mettre au monde le premier singe intelligent de la planète. Ma pauvre Aurore, comment puis-je m'y prendre pour t'expliquer que nos moindres actions auront un impact direct avec le développement évolutif de la vie sur Terre? Logiquement, nous ne devrions même pas exister avant le singe, et pourtant c'est lui qu'on voudrait empêcher de naître. Si tu refuses de le mettre au monde, ta décision retardera pour des milliers d'années à venir son existence en tant qu'ancêtre de l'homme. Je te dis cela, puisque je l'ai vu dans un songe. Il naîtra par toi, ou bien par cette lente évolution des espèces. Cette plante humanoïde ne t'a pas choisi comme mère du singe, mais simplement à cause que tu possèdes ce pouvoir d'enfanter. Si tu n'avais pas été envoyé à l'époque des dinosaures, cette tige se serait saisie d'une autre femelle animale ou végétale pour transmettre ses gènes. Un jour ou l'autre, c'est le rat qui en aurait été le porteur, et celui-ci l'aurait transmis à un autre animal ayant encore plus d'affinité physique avec le singe. C'est un long processus qui va ensuite le muter en homme-singe. Encore là, on ne sait vraiment pas comment s'est faite cette métamorphose ou division entre l'homme et le singe. Tous les deux sont frères physiquement, mais le singe fut incapable de développer un langage articulé. Je pense que c'est l'association des sons qui permit à l'homme de créer finalement cette division d'avec son frère des arbres, en développant une intelligence axée sur le dialogue. Car plus il a compliqué son vocabulaire, plus il recherchait de la précision dans ses propos. Puis, je pense que c'est ce pouvoir d'associer des mots à des images mentales qui éveilla finalement sa conscience à d'autres plans ou réalités. Le singe rêve, mais ignore comment expliquer les images qu'il voit. Il possède l'instinct de survie comme son frère découvreur, mais son monde ne va pas au-delà de ses cinq sens. Il ne peut créer des images. Des images? Tu crois que l'homme se distingue du singe à cause des images qu'il peut inventer? L'homme invente en parlant et ses paroles suscitent des images dans l'esprit de celui qui l'écoute. Évidemment, si plusieurs auditeurs entendent les mêmes mots, ils ne les interprètent pas toujours dans la même manière. Ils ont des images différentes selon leur culture, éducation, mœurs, imagination, etc. Donc, nous comprenons ce que nous pouvons nous expliquer. Tu vois, si tu multiplies toutes ces images que l'homme cherche à expliquer, tu en arrives à la conclusion qu'il réfléchit, qu'il analyse et transpose constamment ce qu'il pense en toutes sortes d'idées qui font que chaque homme est unique parmi ses millions de semblables. Je crois également que toutes ces images articulées par des mots ou des idées activent les neurones nerveusement, si je peux employer cette image, et cela multiplie ses cellules mentales. Puis, génétiquement, l'homme cède une partie de ses connaissances à sa descendance, ce qui nous oblige ou nous éloigne encore plus du singe, qui peut encore mimer ses gestes sans pour autant comprendre pourquoi l'homme parle et pas lui. C'est le langage qui a fait évoluer l'homme. J'en suis convaincu, Aurore. Plus il y aura de langues différentes sur Terre, plus l'homme aura des images différentes à communiquer, car chaque langue possède ses propres définitions d'image. Mais pour en venir au sujet qui nous attriste tous les deux, je te demande de réfléchir aux conséquences qu'aura ton geste si tu tentes de te débarrasser du singe qui n'a pas demandé à naître de ton ventre. L'apparence est une chose qui peut inciter à juger sans connaître la véritable nature de celle-ci. Un singe ou un homme va lutter pour sa survie, surtout si ce n'est qu'une question d'apparence. Je veux dire par cela que si le nombre de gènes est le même, comment peut-on prétendre que l'un est simplement un animal et pas celui qui deviendra l'ancêtre de l'homme? Si je te disais que les algues sont encore plus proches de nous que les rats et fourmis comme espèce, je ne ferais qu'émettre une hypothèse, puisque l'origine de la vie ne vient pas de la Terre, mais de l'univers. Nous ne devrions même pas nous trouver ici. A-t-on le droit de juger cette plante qui t'a prise pour une forme vivante capable de la faire exister encore dans le plan de la vie? Ta dignité en a pris un rude coup, mais je te demande encore de laisser vivre le premier singe de l'histoire. Je vais le détester, vraiment le mépriser, puisqu'il n'est pas mon enfant, mais une bête. Aurore comprenait parfaitement qu'elle était accidentellement devenue la mère du singe, et en éprouvait beaucoup de honte. Par contre, elle devenait l'un des chaînons de la fantastique évolution des espèces sur Terre. C'était comme si son sacrifice devait permettre au singe d'exister dans le plan de la vie. Dame de Vicoq se résigna finalement à accepter son sort, en considérant sa condition de mère comme un incident de la nature. Elle se disait affectée d'une maladie passagère, dont elle se sentait victime sans plus. Un jour, son médecin allait lui arracher cette grosse tumeur pour la libérer. Il ne fallait surtout pas lui demander d'éprouver le moindre attachement pour cet enfant. Est-ce que l'on aime la tumeur, sa tumeur cancéreuse? C'est ainsi que se motivait cette femme en examinant son ventre grossir semaine après semaine. À la fin du 8e mois, elle dit à son compagnon, « Écoute-le bouger dans mon ventre, ce petit monstre des laideurs. J'écoute et je les entends bouger. J'ai l'impression que tu auras des jumeaux. Je m'en fous. Tout ce que je te demande, c'est de m'en débarrasser. » Tu souffres et je ne sais vraiment pas trouver les mots qui pourraient te consoler. Ne dis rien puisqu'ils vont bientôt sortir de mon ventre et c'est tout ce que je veux. Oui, ils doivent sortir de ton ventre, ma pauvre Aurore. Je vais les sortir par la queue s'il le faut. Mélius, je suis probablement en train de devenir folle, mais je voudrais te dire pendant que je suis encore lucide que je t'aime. Je sais que tu ne dors plus depuis plusieurs semaines et que tu pries pour moi. Je ne mérite vraiment pas ton amour, car je ne suis plus une femme, mais une sale guenon. » Pêchet s'empressa de lui serrer les mains avant de les placer sur son cœur en disant les yeux pleins de larmes. « Accepte-moi comme ton singe amoureux, si c'est ainsi que tu as l'intention de te définir toi-même. Moi, en autant que tu m'aimes, je pense pouvoir te décrocher la lune. » « Ou des bananes, lui répondit Aurore en lui essuyant les yeux. Son amoureux ferma les yeux pour lui offrir ses vers improvisés rapidement. Si Aurore aime les bananes, son amoureux vivra dans les lianes pour lui décrocher le fruit de la manne qui guérira peut-être son âme. Tu sais, banane ne rime pas avec âme, mais femme ne rime pas non plus avec guenon. Puis la nuit de l'enfantement arriva, le jour d'un orage. Les cris d'Aurore se perdirent entre les coups de tonnerre. Deux petits singes se retrouvèrent finalement dans un panier fabriqué tristement par Pêchel afin qu'ils servent de berceau. Il y avait là une guenon et un singe vraiment hideux, si on voulait évidemment les comparer à des enfants. Notre homme n'osait dire à la mère qu'il les trouvait tout de même mignons pour des singes. Il serra les mains froides et fiévreuses d'Aurore en lui demandant calmement. « Comment te sens-tu à présent? »« Je ne sais plus, lui répondit-elle en fixant la voûte arrondie de la demeure. « Ils sont en santé? »« Oui, mais toi, comment vas-tu? »« J'irai mieux lorsque tu m'auras débarrassé d'eux. Je t'en prie, va les cacher quelque part. Ne t'inquiète pas pour moi, puisque je vais dormir un peu. » « Oui, je te promets d'aller les cacher dans un endroit où tu ne les verras pas. » Il faudrait tout de même que j'aille les nourrir, mais j'ignore avec quoi. Mon pauvre Mélius, tu es si grand de cœur que je ne peux t'en vouloir de t'inquiéter pour mes petits monstres. Bande-moi les yeux, je t'en prie. Non, ta mission n'est pas de les nourrir de tes seins, c'est vraiment trop exigé de ta nature de femme. Écoute, ils pleurent, je pense qu'ils ont faim. Je ne veux pas les voir, mais je peux également les laisser. Mais je ne peux également les laisser mourir de faim. » Pêchet lui banda les yeux en lui disant d'une voix émue, « tu es belle au fond de ce cœur que j'ai cru si longtemps glacé. » Décidément, Dame de Vicoq était humaine, une vraie humaine, pour laisser ce petit singe boire à ses seins, même si elle disait les détester. Il n'y a vraiment que la femme qui puisse comprendre un tel sentiment dualiste. Dame Aurore de Vicoq accepta de nourrir ses rejetons jusqu'au moment où ils furent suffisamment autonomes pour se nourrir d'eux-mêmes. Bananus, le petit mâle, et Guenil, la femelle, et sa jumelle, ne tenaient pas cependant à quitter leur mère, même si celle-ci les repoussait à coups de pied. Depuis le début, elle refusait de les voir et portait un bandeau sur les yeux dès que ces petits monstres osaient s'introduire clandestinement dans la maison pour chercher à s'accrocher affectueusement à ses jambes. La pauvre femme les évitait violemment et parfois ses cris devenaient presque des pleurs hystériques. Péchel pouvait comprendre ses réactions, mais il en savait trop sur la psychologie humaine pour savoir que Bananus et sa sœur souffraient terriblement d'un manque d'affection maternelle. Des petits sons s'échappaient de leur gueule dentelée et qui passaient pour des cris incohérents pour Aurore. Mais notre homme pouvait les associer aisément au mot « maman ». Un matin, il a bien fallu que Méléus libère sa compagne de ces affreux petits monstres en les enfermant dans des poches qu'il avait confectionnées à cet effet. Il partit ensuite en compagnie de Bacchus, qui lui jappa d'un air alarmé. « Que vas-tu en faire, mon maître ?»« Mais simplement les éloigner de ma compagne, puisque je vois bien qu'ils perdent leur temps à grandir auprès d'elle. »« Elle n'aime pas les singes, alors ?» lui demanda le chien. « Oh, tu ne pourrais pas comprendre ses raisons. J'espère seulement qu'ils pourront survivre dans cette forêt d'algues et de marécages. J'irai les voir tous les jours pour les aider à se nourrir. »« Brave chien généreux, je ne sais vraiment pas ce que je ferais sans toi. » « Je trouve que tu fais plusieurs choses, même lorsque je ne suis pas là. » C'est ainsi que les petits singes durent apprendre à vivre loin de leur mère naturelle. Celle-ci se crut un moment libérée de leur présence, mais ce sentiment de n'avoir pu les aimer avait semé en son cœur une graine d'amertume, qui allait peut-être pousser lentement comme cette fleur du mal, dont l'odeur infeste les autres senteurs de l'âme. Dame de Vicoq se sentait coupable d'éprouver encore des sentiments féminins après une telle expérience. Son compagnon la vit changer jour après jour, sans pour autant afficher sa peine. Elle parlait peu et souriait même à l'occasion pour ne pas l'inquiéter. Constamment occupée, elle donnait l'impression d'être forte dans l'épreuve. Des rides, jusqu'alors discrets sur ses joues et son front, lui plissèrent la peau pour contredire la beauté de son regard. Son éternel sourire n'était plus naturel, mais cela masquait tout de même cette honte qu'elle éprouvait malgré elle. Pour Aurore, la pudeur et la honte devinrent synonymes. Elle se sentait humiliée et surtout victime de viol. Elle en vint même à s'imaginer que Méléus avait pitié d'elle, même si celui-ci l'aimait encore profondément. Elle lui parla une seule fois des singes et d'une voix presque sarcastique. Si un jour ces petits monstres ne respectent rien, il ne faudra surtout pas leur en vouloir. Ils ne sauraient agir autrement qu'avec la manière dont ils ont été éduqués. Aurore, ce sentiment de culpabilité ne te servira à rien du tout, sinon qu'à ternir cette estime de toi. Tu n'as rien à te reprocher. Je ne tiens pas à savoir si j'ai bien fait ou non. C'est fini et pourtant, la vie continue, n'est-ce pas? La femme s'éloigna en lui faisant un large sourire. Puis le temps passa. Un jour, juste avant le coucher du soleil, elle plaça ses mains sur les épaules de son homme pour lui dire d'une voix très frêle. « Ça y est, mon Méléus. »« Oui, mais puis-je savoir de quoi tu parles, Aurore ?»« De mon cœur libéré, voyons. Tu te souviens de m'avoir dit que tu attendrais que mon cœur se libère ?»« Eh bien, c'est fait. » « Je t'aime, même si j'ai honte de te demander de me faire l'amour après ce qui m'est arrivé l'année dernière. » Péchel la prit délicatement dans ses bras et lui sourit, et la conduisit dans la petite maison, exactement comme le ferait un jeune marié avec son épouse. On aurait dit que le soleil brillait majestueusement sur la mer, toujours belle et sans âge. Le ciel attendit que l'astre s'étende sur un lit d'horizon avant de descendre le voile de la nuit. Néléus et Aurore s'aimèrent aussi fort que la douceur de leurs caresses, exactement comme le clapotis des vagues sur la grève. Nous Robinson fixèrent un moment la pleine lune à travers leur humble demeure, et communièrent mentalement à celle-ci comme pour bénir leur mariage. La nuit fut longue et suave, mais Bacchus et Griffin dormirent sans s'inquiéter des bruits étranges que faisait leur maître enchanté par l'amour. Quelques semaines plus tard, Aurore serra les mains de son homme en lui disant d'une voix résignée, « Tu sais, Méléus, je n'ai pas oublié ce que tu m'as dit concernant ta mission sur le continent. J'ai longuement médité ces derniers jours à cause de ces peurs qui m'empêchaient d'accepter de vivre seul pour un certain temps. Je me suis dit que si cette mission doit être accomplie, qu'il était de mon devoir de te soutenir en t'encourageant à partir le cœur léger et la conscience en paix. Je réalise que tu dois obéir à tes maîtres de l'invisible avant toute autre chose. J'avoue être craintive à te laisser partir lorsque tu en recevras l'appel intérieur. Mais j'ai fait un rêve étrange cette nuit qui me montrait un oiseau merveilleux que je tentais de garder en cage afin de l'empêcher de fuir. Une voix me demanda d'ouvrir moi-même la cage, sans quoi l'oiseau amoureux se sentira coupable de s'envoler lorsque son maître lui demandera de partir vers le continent. La voix ajouta que mon bel oiseau reviendra chanter avec un œuf d'amour. C'est vraiment bizarre que tu mentionnes cette œuf d'amour, puisque j'ai également rêvé à un œuf que je devais aller chercher sur le continent, ma douce Aurore. Celui-ci se trouvait dans une grotte située au flanc d'une falaise. En m'approchant, je voyais un halo lumineux entourer l'œuf magique d'Eros. Puis, en m'agenouillant pour mieux l'observer, je pense avoir vu une petite étincelle à l'intérieur de la coquille argentée. Une voix me disait que c'était la flamme originelle de l'âme humaine. Tu veux dire qu'il s'agirait de l'œuf primordial qui contenait les gènes du premier homme? Oui et non, je dirais simplement que c'est ce feu secret qui va un jour transformer la conscience du premier couple que nous appelons simplement Adam et Ève. Je ne peux expliquer à quoi ressemble ce couple, et encore moins cette flamme qui agira en eux pour les distinguer des animaux. J'ose dire que cette étincelle serait la première cellule vivante de l'univers, par laquelle toutes les formes animales sont issues, et même toute la matière qui compose le cosmos. Ce feu est l'amour total, puisqu'il embrasse toute la création sans tenir compte du bien ou du mal qu'on en dit. Je vais te donner un simple exemple de ce qui est normalement défini comme un bien ou un mal, en me servant de cette parabole célèbre du Christ, lorsqu'il maudit un figuier qui ne donnait pas de fruits. Logiquement, on accuse cet arbre d'être stérile, et donc qu'il devient l'image parfaite pour faire comprendre au lecteur que le bon arbre est celui qui porte des fruits. Mais je me suis souvent demandé pourquoi c'est le figuier qu'on accuse, et non le sol dans lequel il a poussé, ou encore l'eau qui n'a pas nourri ses racines, ou peut-être le soleil qui l'a asséché, et pourquoi pas les gens qui n'ont pas vu que cet arbre était malade. Je veux dire par cela que tout était intimement lié dans le cosmos, incluant la beauté et la laideur, la lumière et la noirceur, etc. Mais l'amour est le bien, n'est-ce pas? Tu m'aimes, je t'aime, c'est simple, dirons-nous. Mais alors, pourquoi voit-on la jalousie, la possession de l'autre, et même parfois ce désir de l'enfermer dans une cage dorée, si on prétend aimer? Le véritable amour est comme une grosse sphère contenant tout ce qui doit être aimé, et non ce que l'on aime par choix personnel. Comme on ne sait pas aimer tout ce qui existe, il faut être au moins sélectif dans nos relations. Pourtant, doit-on prétendre qu'on aime ou simplement qu'on vit un amour? L'amour secret qui se trouve dans l'œuf magique ne possède aucun sentiment, alors? Tu sais, Aurore, il est l'amour et pas les sentiments de l'amour, sans quoi l'humanité n'aurait aucun sens. Crois-tu que la laideur existerait si la beauté n'était pas là pour la rendre manifeste? La laideur nous déplaît, mais c'est une main grâce à elle, si on peut en parler et surtout porter des jugements de valeur. Écoute, Méléus, nous parlons d'un œuf magique sans même savoir s'il existe vraiment. Si c'est le cas, il faudrait le récupérer avant que les dinosaures cherchent à le dévorer. C'est pour cela que tu dois partir, n'est-ce pas? Sacré nom d'un chien, tu es devenu si sage, ma douce Aurore, que je ne sais vraiment plus comment réagir à présent. Au début, c'est moi qui cherchais à te convaincre de me laisser partir en mission, et maintenant, je me sens comme un homme que sa femme veut mettre à la porte. Tu es drôle, mon chéri. Crois-moi, il m'a fallu tout mon courage pour te parler de mon rêve, et si tu penses qu'il ne faudrait pas en tenir compte, je serai la première à suivre ton conseil. Non, je crois que c'est un songe que nous avons fait tous les deux cette nuit pour nous préparer à recevoir cet œuf d'Eros. Mais pourquoi dis-tu qu'il est celui d'Eros? Je ne vois rien d'érotique dans un œuf, mon Mélius. C'est vrai qu'un œuf ne possède rien de spécial si on l'examine de l'extérieur. C'est donc à l'intérieur de celui-ci que se cache son secret. Selon toi, que doit bien contenir l'intérieur de l'amour, sinon sa pureté originelle, n'est-ce pas? C'est donc un œuf, non seulement magique, mais vraiment sacré, que je devrais retrouver sur le continent. Ce qui est sacré est évidemment divin, mais comme personne ne connaît le contenu de Dieu, nous nous contenterons de voir au moins sa coquille. Je trouve que c'est tout un privilège de pouvoir toucher un œuf aussi mystérieux. Crois-tu que les dinosaures en connaissent l'existence? Oh, mais pourquoi cette question? Ces bêtes-là sont sûrement assez intelligentes pour savoir qu'elles sont sur le point de disparaître de la création. S'il fallait qu'elles découvrent cet œuf, je suis persuadé qu'une réflexion leur traversera aussitôt leur petite cervelle reptilienne. Les monstres se diront naïvement que c'est cet œuf qui menace de l'évolution, et non que c'est l'évolution elle-même qui le veut ainsi. Mais ils ont tout de même raison de craindre l'apparition du futur maître sur Terre. Dans un sens, je dirais que l'instinct animal peut parfois s'avérer aussi fort que nos pressentiments humains. Ils considèrent cet œuf comme une menace qui pourrait les détruire. Nous éprouvons les mêmes appréhensions depuis l'avènement de la bombe atomique. Les dinosaures réalisent que quelque chose est sur le point de se produire dans l'évolution des espèces, exactement comme si un peuple voyait se lever cette menace d'une bombe atomique. Ce n'est pas l'avènement du pouvoir nucléaire qui rend le monde si craintif, mais la mauvaise foi dans son utilisation. C'est sans doute ainsi que les dinosaures perçoivent ce pouvoir contenu dans cet œuf que je dois retrouver. Ils ne craignent pas l'homme en tant que l'œuvre de la nature, mais plutôt la manière dont celui-ci utilisera son pouvoir sur Terre. On dirait bien que tu cherches à me dire que ces grosses bêtes préhistoriques voudraient empêcher cet œuf d'éclore pour protéger la nature. C'est toi qui le penses, et non moi, Aurore. J'ai simplement dit que les dinosaures craignent l'avènement de l'homme, au même titre que ceux qui ont peur du nucléaire. Ces monstres ne veulent pas disparaître à cause de l'homme, et celui-ci ne tient pas non plus à être effacé à cause des bombes nucléaires. Pêcheux ne comprenait pas encore par quel miracle sa douce Aurore avait été transformée. En effet, sa compagne voulait le presser à accomplir sa mission avant qu'il apprenne qu'elle est enceinte. Il va sans dire que Mélius éprouverait encore plus de difficultés à la quitter s'il devait découvrir la vérité. Au cours des semaines qui suivirent, notre homme en passa une grande partie à apprivoiser les grosses tortues. Elles finirent par lui proposer elles-mêmes de l'aider à traverser vers le continent dès qu'il leur exprima son désir de voir les dinosaures de plus près. « Tu n'es vraiment pas sage à épier ces maîtres du monde, » lui dit une tortue en mastiquant une racine. « Est-ce vrai qu'ils sont intelligents ?» demanda notre homme, en demeurant agenouillé devant elles pour être à leur hauteur. « Ils possèdent des grosses têtes et des dents énormes, » lui répondit une vieille cuirassée. « C'est quoi l'intelligence selon toi ?»« Les dinosaures le seraient s'ils laissaient vivre les petites créatures qu'ils écrasent de leurs pieds avec indifférence. » Ils ne nous considèrent pas comme leurs égaux, puisque nous constituons d'autres espèces plus faibles selon eux. Si les dinosaures doivent disparaître, nous savons fort bien que c'est pour recréer l'équilibre des forces entre les animaux. La nature est sage et ingénieuse en plaçant sur Terre des animaux terribles qui obligent les autres espèces à les éviter par tous les moyens inimaginables. Pour survivre, nous avons appris à nous adapter à toutes sortes de changements. Tu sais, nous n'avons pas toujours été herbivores, mais faute de rapidité pour attraper nos proies, il a bien fallu trouver notre force ailleurs que sur la terre ferme. Nos ancêtres carnivores faillirent disparaître à cause des dinosaures qui pouvaient les traquer facilement, malgré que les tortues pouvaient se déplacer beaucoup plus vite que nous. Par contre, nous avons développé notre vitesse dans l'eau, et même les dinosaures ne peuvent nous vaincre dans notre élément. Par la force des choses, il a fallu apprendre à nous nourrir de ce que contient le fond marin.